voudrais remercier tout d'abord Jo Lavaudan et le Théâtre de l'Odéon qui nous a autorisé à s'asseoir sur son plateau. Alors, je sais que le plateau est sacré et comme vous allez vous en rendre compte, nous ne sommes pas vraiment des comédiens. Voilà, je le remercie très chaleureusement, ainsi que toute l'équipe de l'Odéon qui nous a accueillis formidablement. On est ici, vous le verrez tout à l'heure, on fait un formidable projet avec eux pour la Cour d'honneur. Le déroulé un petit peu de cette conférence de presse, on va vous raconter, Hortense et moi, un peu le projet qu'on a rêvé pour le Festival d'Avignon. Ensuite, je passerai la parole à Thomas Ostermayer, qui est l'artiste associé de cette édition 2004. Enfin, je vous dévoilerai la programmation de cette prochaine édition. Suite à ça, nous passerons la parole à la coordination nationale des intermittents pour qu'ils fassent un point sur la situation actuelle. Et enfin, je vous inviterai à prendre un verre dans le hall du théâtre.
Donc on est très très heureux et émus d'être là. On a fait cette conférence de presse plutôt que précédemment. À l'accoutumée, on faisait plutôt ça au festival vers mars. Et là, on a décidé d'avancer cette conférence de presse mi-avril. On a défié le calendrier pour pouvoir le faire. On voulait faire ça pour deux raisons. D'une part, dire que le festival 2004 se préparait, qu'il existait, et qu'on souhaitait reprendre la parole avec un programme, un projet artistique. L'autre raison, c'est qu'on pense qu'il nous faut prendre du temps pour raconter ce programme au public, pour lui faire partager les envies qu'on a de découvrir toutes les créations qui seront là cette année. Je voulais, en préambule à cette conférence de presse, très chaleureusement remercier les tutelles du Festival d'Avignon, que sont le ministère de la Culture et de la Communication, la ville d'Avignon, le département de Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parce que suite à la crise financière qu'a traversé le festival après l'annulation de l'été dernier, ils ont, par des subventions exceptionnelles, remis à niveau le festival et comblé le déficit qui en a résulté. Et qu'ensuite, ils ont aussi renouvelé leur confiance dans notre projet, respecté leurs engagements de subventions supplémentaires pour nous permettre de réaliser le projet. Donc le programme qu'on peut vous présenter là, pour 2004, est celui qu'on voulait faire.
Donc juste cette réaction très forte des collectivités publiques, pour nous c'est le signe de la garantie d'un service public de la culture très fort dans ce pays. Ce sont les valeurs que nous défendons dans le projet que nous vous présentons, c'est-à-dire offrir aux artistes la possibilité de prendre un vrai risque artistique, avec une vraie liberté artistique, une vraie liberté de création, et en même temps de donner l'accès à ces projets au plus grand nombre. Je crois que cette valeur du service public de la culture, nous la défendons très fortement, et c'est, je crois, le Festival d'Avignon en est le symbole depuis 1947, depuis la création du festival, de ces valeurs-là qui, je crois, il faut défendre aujourd'hui très fortement.
Depuis 1947, quatre directions se sont succédées au festival, donc on est très intimidé quand on pense à ces quatre directions, Jean Villard, Paul Puot, Alain Crombec, et enfin Bernard Feldarcier et Christiane Bourbonneau. Ces derniers nous ont transmis avec générosité et attention le Festival d'Avignon l'été dernier, malgré les tempêtes, et on les en remercie aussi. Pour nous, le festival, c'est un lieu de rassemblement qu'ils ont construit depuis près de 60 ans maintenant, donc ces quatre directions. Un lieu de rassemblement incroyable avec un retentissement qui va bien au-delà des murailles, de ce qui s'y passe à l'intérieur des murailles. C'est un lieu qui, depuis l'origine, est un lieu contemporain de création, d'avant-garde, où on a toujours eu des spectacles, très contemporains, avec une très grande ouverture sur le public. C'est un lieu, enfin, qui est ancré dans son époque, et en même temps dans la mémoire collective, la mémoire des murs, la mémoire du public.
Donc, quand on a commencé à réfléchir à l'avenir du festival, ou à l'avenir que nous rêvions pour le festival, je crois qu'on est d'abord animé par une conviction, c'est que si l'art ne change pas le monde, évidemment, je crois qu'une œuvre artistique, à un moment donné, peut troubler l'individu, peut trouver l'intimité d'un spectateur, et qu'à partir de là, son regard peut commencer, peut changer et peut être nourri du regard des artistes. Je crois que c'est animé de cette conviction qu'on a envie d'inventer ce festival, car on pense que c'est un endroit absolument formidable et très singulier, et très propice à la rencontre entre le spectateur et les œuvres artistiques. Les artistes qui, je crois, sont les plus à même de nous toucher sont ceux qui inventent véritablement un langage singulier, qui œuvrent spectacle après spectacle, développent une œuvre originale, forte, et qui nous nourrit d'un regard singulier sur le monde. Ce sont ces artistes-là que j'ai envie de défendre au festival, en les invitant à faire des créations. Le Festival d'Avignon, c'est d'abord un lieu de création. C'est une chose qu'il faut défendre fortement. Un lieu de création. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'exprime le désir à un artiste de venir participer à l'aventure du festival, je l'invite à venir à Avignon pour qu'on puisse inventer sa présence à Avignon. C'est pour ça que nous nous sommes installés à Avignon. La direction du festival est désormais à Avignon. C'est pour qu'on puisse prendre le temps de réfléchir, d'inventer, de rêver en se promenant dans les pierres, des vallées, des cloîtres, des carrières, et qu'à partir de là, à partir de ces promenades, de ces discussions, on puisse commencer à rêver des projets, initier des projets. Ensuite, le festival met tout en œuvre pour accompagner jusqu'au bout la réalisation de ces spectacles. Et parfois, les pierres que l'on a rencontrées, ces lieux si singuliers d'Avignon, participent à la dramaturgie du spectacle, participent à la création. Et certains spectacles de cette année seront vraiment, je crois, créés. Et l'artiste l'écrira, ou ils sont en train de les écrire, en pensant à ces lieux, ça c'est une chose que je trouve très, très forte pour le festival. Les créations, pour mieux accompagner ces créations aussi, nous voulons donner plus de temps aux artistes, dans le temps du festival, plus de temps, plus de respiration pour présenter leur œuvre. Donc à chaque fois, autour des créations, pour mieux les accompagner, on va essayer de déployer l'œuvre des artistes, en accompagnant ces créations, peut-être d'autres spectacles, s'il y a un répertoire, d'autres formes, d'autres expositions, des films, des lectures. En tout cas, épaissir, rendre plus dense la présence des artistes au festival. Et je crois que le festival est un endroit propice pour cela, car le public est extrêmement disponible. C'est une la grande richesse du festival, la richesse dont on profite, dont on est responsable, et qu'on doit offrir le mieux possible aux artistes. C'est ce public qui vient de toute la France, de la région d'Avignon, mais aussi de toute la France, qui vient de très loin pour, pendant quelques jours, être extrêmement disponible, curieux, pour rencontrer les œuvres artistiques. C'est une grande spécificité du festival, en tout cas dans cette ampleur-là, et c'est ça qu'on doit défendre, et c'est pour ça qu'on doit inventer un festival singulier qui mérite, qui puisse mériter la venue de ses spectateurs de France entière et d'ailleurs.
Effectivement, au festival, le spectateur voit plusieurs spectacles dans un temps rapproché. Souvent, il peut enchaîner plusieurs spectacles dans la même journée, ou en tout cas, sur quelques jours, voire plusieurs spectacles, et que c'est effectivement ce comportement spécifique qui nous touchait et nous intéressait. Et de ce comportement spécifique, il y a une sorte de dramaturgie naturelle qui se dégage, et les spectacles, quand le spectateur soit repart chez lui, soit va se coucher, résonnent forcément dans sa tête les uns avec les autres. Cette chose-là, nous avons eu envie de l'accentuer, de donner plus de cohérence au festival, plus de force, plus de caractère. Et pour cela, nous avons demandé chaque année à un artiste de s'associer à l'invention et à la réalisation du festival, chaque édition. L'artiste associé donc, de cette année est Thomas Ostermayer. Et dans la construction de ce festival, il a une place essentielle qui est celle d'un artiste. C'est ni un directeur artistique, ni un programmateur, ni un directeur. C'est un artiste et qui... de sa place d'artiste avec son œuvre, son univers, ses questionnements, ses doutes, ses choix, ses postures, ses pratiques, nous a bousculé, nous a inspiré la construction du festival. De tout ça, après, Vincent s'en est emparé pour faire une programmation subjective dans un dialogue permanent avec Thomas.
Voilà un petit peu nos intentions, apprendre à réfléchir en même temps à la mise en œuvre de ce projet. La première chose qu'on a voulu affirmer, c'est la double direction, Hortense et moi. C'est la volonté de travailler en complicité, en dialogue permanent, et c'est aussi d'être plus facilement très attentif à la mise en œuvre du projet, à la mise en œuvre des créations et des rêves des artistes. Je crois qu'il n'est pas possible d'accompagner les artistes dans ces désirs, dans ces désirs de création, si on ne réfléchit pas en même temps à l'accompagnement, à la production, à l'inscription dans le territoire de cet artiste, à l'inscription l'accompagnement pour pouvoir monter les productions. Donc je crois que c'est une réflexion qui nous anime de toujours réfléchir à la mise en œuvre en même temps que le désir artistique.
Effectivement, la mise en œuvre, on peut la définir autour de trois axes qui sont les choix forts qu'on fait. La relation aux artistes, en la réfléchissant, on s'est dit que c'était important d'accompagner les artistes. Accompagner les artistes, c'est d'essayer de marcher à côté d'eux dans tout leur processus de création. Et à chaque étape, de trouver les réponses les plus inventives, les plus... les meilleurs possibles en fait pour les aider à les accompagner. Donc, depuis septembre, toute l'équipe du festival a retroussé ses manches pour commencer dès maintenant ce travail d'accompagnement, et on les en remercie beaucoup parce que tout à coup ça a changé nos modes de travail et de fonctionnement. Ils ont accompagné un artiste, c'est réfléchir à trouver des partenaires, c'est l'aider dans sa production, c'est lui trouver des lieux de résidence, c'est construire son décor, c'est essayer de trouver des réponses techniques à des problèmes, c'est aussi varier que possible, essayer voilà, de répondre aux questions qui se posent sur tout le processus de création. Enfin, aussi, une fois qu'on a une grande liberté dans nos choix de programmation, c'est dit qu'il fallait réfléchir à la relation avec le public et essayer d'aller à la rencontre du public, d'essayer d'expliquer, de faire partager ce que je disais au début, les choix que nous avons faits. Et donc, pour cela, on a mis en place un rendez-vous mensuel à Avignon, où chaque mois, on fait rencontrer un artiste avec le public d'Avignon pour expliquer le processus de la construction du festival, le processus de la création de l'artiste, et raconter progressivement le programme de l'été suivant. Enfin, quand Vincent parle d'inscription sur un territoire, c'est qu'on a souhaité que pour pouvoir mettre en œuvre tout ce projet, mieux ancrer le festival sur un territoire, et donc en l'occurrence Avignon. Donc s'installer à Avignon, mais aussi essayer de travailler avec les partenaires possibles à Avignon et autour d'Avignon pour, encore une fois, pouvoir mieux accompagner les artistes.
Donc ce projet-là, on va l'inventer après différemment chaque année. C'est pour ça qu'on a choisi 4 artistes associés pour les 4 prochaines éditions du festival, 4 artistes avec lesquels on est déjà en dialogue, ce qui nous permet de réfléchir sur les 4 prochaines années aux 4 couleurs différentes, il y a 4 visages différents du festival. Cette première édition, nous l'avons inventée avec la complicité de Thomas Ostermayer. Ensuite, l'année prochaine, ce sera avec Yann Fabre. Ensuite avec Joseph Nage en 2006 et enfin avec Frédéric Fisbach en 2007. On espère de ce fait vraiment de donner une couleur différente au festival chaque année. Le choix de Thomas pour commencer cette aventure, pour moi, était une grande évidence. D'abord pour l'admiration que j'ai pour son travail, pour la complicité que l'on avait déjà, car on se connaît depuis plusieurs années, et depuis la première venue de Thomas Ostermayer au festival en 1999. Pour moi, Thomas, c'est vraiment le symbole de la vitalité du théâtre allemand aujourd'hui, qui est pour moi un des théâtres les plus intéressants en Europe. D'abord, parce que c'est un théâtre engagé, c'est un théâtre qui questionne le monde de façon artistique. Je crois que chaque fois que Thomas Ostermayer met en scène un spectacle, c'est pour essayer de faire un miroir de notre société, en mettant un contexte toujours très fort à chaque pièce, qui donne une évidence au texte, que le texte soit classique ou que le texte soit contemporain. Thomas, c'est aussi l'exemple même de la vitalité du théâtre d'ensemble, du théâtre de troupe, du théâtre de répertoire, qui est le modèle référent en Allemagne. Il a constitué autour de lui une jeune troupe qui l'accompagne depuis déjà plusieurs années, avec des acteurs formidables, un dramaturge, des scénographes, et qui lui ont permis petit à petit, grâce à cette continuité, d'inventer un véritable langage, un langage qui est le sien. Et s'il maîtrise absolument l'art théâtral, pour moi, c'est pour mieux nourrir cette tradition du théâtre allemand, c'est pour mieux tordre cet art, c'est pour mieux le faire imploser, c'est pour mieux le faire vivre, c'est pour faire du théâtre véritablement vivant. Et c'est une de ses grandes forces. Et si ces esthétiques sont parfois radicales, c'est toujours dans un souci d'amener les spectateurs à aller avec lui, toujours dans le souci d'amener les spectateurs à suivre la dramaturgie de ses spectacles dans une véritable ouverture. Et je crois que ça aussi, c'est un théâtre dont on a besoin à Avignon, quand on parle d'un théâtre qui pourrait être à la fois exigeant et populaire. Je crois que Thomas en est vraiment le symbole. C'était aussi le choix de Thomas, commencer cette aventure avec un artiste de ma génération, et avec qui on pouvait partager un regard sur le monde commun. C'était aussi symboliquement commencer cette aventure avec un artiste européen. Je crois qu'aujourd'hui, où l'Europe culturelle a parfois du mal à se mettre en place, je crois qu'à notre niveau, au niveau de notre responsabilité, c'était important de pouvoir partager une expérience forte entre un artiste allemand et le Festival d'Avignon. Symboliquement aussi, pour ce festival né juste après la guerre, qu'on puisse inventer ce festival en 2004 avec un artiste allemand, avec des spectacles en allemand, même dans la cour d'honneur, je crois que c'était aussi un symbole fort que pouvait exprimer notre génération. Donc je vais passer un petit peu la parole à... Enfin, un petit peu, il va abuser du micro. La parole à Thomas, voilà, pour qu'il raconte un peu ce que représente le festival pour lui et comment il a vécu le travail que l'on a fait depuis un an pour préparer cette édition.
Oui, merci beaucoup. J'aimerais bien que vous excusez mon français un peu limité, mais j'essaierai quand même de faire cette conversation en français. C'est bien évident que c'est pour moi un grand honneur d'être nominé artiste associé cette année, parce que c'est pas évident que quelqu'un qui vient d'Allemagne et avec Vincent et Hortense à la tête de ce grand festival français. Et vous connaissez, on connaît tous l'histoire français-allemand et Vincent vient de le décrire, alors j'espère bien que ça, cette collaboration est un signe de notre génération pour une amitié franco-allemande d'une sorte. J'étais la première fois à Avignon il y a six années déjà, et pour nous c'était une expérience magnifique. On était à la fin de notre petit premier théâtre qu'on a construit à Berlin, la baraque. Après trois années, ça s'est terminé déjà. Et à la fin de cette expérience-là, on était invité par Bernard Fèvre d'Acier de venir à Avignon. Et pour nous, c'était un moment très, très important pour l'équipe, pour notre ensemble, de faire la connaissance de ce festival. C'était pas la première fois qu'on a fait la connaissance du public français, mais la première fois qu'on a été reçu avec trois spectacles sur un grand festival. Alors ça a marqué vraiment quelque chose dans notre travail. Quand on a commencé à la baraque, les premiers contacts avec les théâtres internationaux ou les pays de théâtre, le premier pays, c'était la France, c'était l'Institut français qui nous a soutenus, qui a invité avec nous cette sorte de semaine de la dramaturgie. On a commencé avec une semaine de la dramaturgie française, alors il y avait toujours une très grande proximité entre nous et le théâtre français. Aussi, il faut dire que la France est le pays où on était allé le plus souvent, où on trouve toujours un public très, très ouvert, très chaleureux, qui accueille notre théâtre avec une grande ouverture, qui est pour nous très, très, très remarquable, qui a cette grande curiosité pour le théâtre allemand et pour un théâtre de jeunes metteurs en scène allemands. Alors, quand il y avait la demande de Hortense et Vincent de faire cette expérience et cet expériment ensemble pour l'année 2004, il y avait un moment de pensée pour moi, mais au deuxième moment, je me suis dit c'est un si grand honneur et c'est une si grande possibilité de penser pour moi où il y a des théâtres ou des langages de théâtre qui ont influencé mon façon de faire du théâtre et qui sont pas des compagnies où je pourrais dire c'est la famille. Il y a des grands concurrents que nous on a invités. Il y a comme vous savez peut-être À Berlin, il y a la grande concurrence entre la Volksbühne et la Schaubühne. Il y a toujours la grande concurrence entre Castorf et le théâtre que moi j'ai fait. Mais on n'a jamais la possibilité de demander à Franz Castorf de travailler à la Schaubühne. Mais on a eu la possibilité de lui demander de venir. Au Festival d'Avignon, parce que c'est un des grands metteurs en scène de théâtre que j'adore, et où je crois que vous connaissez déjà la France, mais je crois que je sais que c'est la première fois qu'ils viennent à Avignon, et il y a des autres metteurs en scène, et pas forcément seulement des metteurs en scène allemands, mais aussi de toute l'Europe, où je crois que le théâtre qu'eux, ils font, c'est dans cette époque-là, dans cette situation politique, c'est important qu'ils sont là et qu'on donne une voix à cet langage théâtral, un podium à Avignon. Je crois qu'à un moment, en Europe, dans le monde, il y a un grand souci, il y a une grande angoisse. Il y a même, beaucoup de gens parlent d'une crise, même si je crois qu'au niveau de l'économie, c'est aussi une sorte tactique de parler de cette crise économique. Mais dans cette situation-là, dans une situation où la parole de la société bourgeoise essaye de faire le sentiment qu'il n'y a plus assez d'argent pour tout le monde dans une situation d'une crise comme ça, il y a toujours la tendance que on perd ou on oublie que le théâtre est là pour la société bourgeoise qui a inventé cet théâtre que nous avons là en moment. Que cette société oublie de se mettre en question avec ce théâtre-là. Il y a la tendance à Berlin, il y a la tendance dans toute l'Europe vers un théâtre plus, de divertissement. Il y a toujours la question combien ça coûte, il y a toujours la question combien des acteurs, combien de spectateurs sont dans la salle, et il y a une tendance dans le théâtre de fixer d'économiser tout le théâtre. Mais à mon avis, et la sélection des artistes qu'on a fait, à mon avis, il y a un théâtre qui, à la base, ne se demande pas combien de spectateurs vont venir ou combien de journalistes vont aimer, c'est ce que je fais, mais il y a la question, c'est ce que je voulais raconter avec mon production, qu'est-ce que je voulais montrer sur le monde. Et je crois qu'on a réussi à rassembler une grande partie des artistes européens à cet festival d'Avignon qui travaille dans cette direction-là. Il n'y a pas seulement des amis, il y a aussi des gens qui sont tout à fait à l'opposition de mon œuvre, mais qui, comme René Polish par exemple, qui essaye de poser les mêmes questions, mais avec une esthétique et une façon tout à fait différente de ce que moi j'essaie de faire sur la scène. C'est tout, je crois, pour le moment. Comment s'est passée cette collaboration? On a pas mal discuté, et au début, je crois que cette choix qu'on a fait là et cette sélection qui est là dans le programme maintenant. Au début, je ne croyais pas qu'on réussit à faire tout ce programme. C'est un programme immense, je crois. Il y a des grandes productions, il y a des grandes compagnies, il y a des grands décors sur la scène et grâce à cette situation économique qu'on a avec le festival en ce moment, c'est possible de faire ça et je suis très heureux que ça s'est fait dans cette façon. Je ne veux pas parler beaucoup sur mes propres spectacles, il faut juste dire aux premières vues ça semble beaucoup parce que ce sont 4 spectacles, mais il y a 2 grands mises en scène ou des grandes productions comme Le Wojciech et Nora, et 2 petits, un monologue qui est une sorte d'épilogue, une sorte de continuation de mon production de Nora, de Dolls House, Maison de Poupée. Et il y a une mise en scène aussi très petit, très simple, avec 2 acteurs, 2 chaises, une batterie sur la scène qui s'appelle Disco Pizza, donc de grandes, de petites productions de ma part. Merci beaucoup. Et...
Merci Thomas. Donc effectivement, on a travaillé ensemble avec Thomas depuis 1 an, on a beaucoup échangé, discuté. Il m'a fait découvrir des artistes que je ne connaissais pas. Je lui ai parlé d'artistes que je trouvais intéressant de confronter à son esthétique, à son travail. À force de discussion, une constellation d'artistes est née, celle que vous avez dans l'avant-programme. Ensuite, il y a eu un énorme travail avec Thomas et surtout avec toute l'équipe du festival pour mener à bien ce programme et pouvoir trouver les financements, les aides, les partenaires qui nous ont permis de réaliser ce programme. Maintenant, c'est à chacun de s'approprier cette constellation, de faire des parcours qu'ils ont envie de faire. Il y en a quelques-uns qui sont dessinés dans l'avant-programme, mais tout ça est libre et c'est à vous de jouer maintenant. Je vais vous présenter un parcours possible entre ces spectacles. Évidemment, au cœur, si vous déployez l'avant-programme, au cœur, il y a Thomas Ostermayer, avec les 4 spectacles qu'il vient de mentionner. Wojciech, tout d'abord. Magnifique mise en scène. Alors, juste avec Thomas, on a ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment déployer cette idée du répertoire, ce qui est possible avec le théâtre d'ensemble, ce qui est rarement possible, du moins impossible en France. Donc c'est plutôt ce choix-là, de déployer un répertoire avec une troupe d'acteurs magnifiques et que les spectateurs d'Avignon puissent se promener dans ce répertoire-là. C'est une des chances, grâce au moment d'Avignon, où les spectateurs peuvent voir plusieurs spectacles, d'avoir cette chance de parcourir un répertoire avec une même troupe d'acteurs. Donc on n'a pas fait le choix de création spécifique pour Avignon, mais plutôt de mettre en valeur cette richesse-là du théâtre allemand et du théâtre de la Schaubühne. Donc Wojciech sera recréé pour la cour, évidemment réadapté, car la cour d'honneur, même si la Schaubühne est l'un des plus gros théâtres en Allemagne, elle n'est pas assez grande, le plateau n'est pas celui de la cour d'honneur. Donc Thomas va recréer Wojciech dans la cour, un Wojciech situé dans une banlieue périphérique de Berlin-Est ou d'Avignon ou d'ailleurs, avec un acteur formidable qui s'appelle Bruno Katomas. Ce spectacle couvrira donc la cour d'honneur du 8 au 13 juillet, surtitré en français évidemment, donc joué en allemand, surtitré en français. Beaucoup des spectacles de Thomas et de quelques autres metteurs en scène allemands, hollandais ou flamands seront surtitrés. Je crois que c'est une technique que l'on pratique très bien et je crois que Avignon, on veut donner la chance, même pour un public très large, même pour un lieu comme la Cour d'honneur, un public très large, d'avoir accès à ce théâtre, même s'il est en langue étrangère. Je crois que c'est une des forces que peut offrir Avignon. Ensuite, un autre personnage qui s'affronte à la société, mais plutôt dans un contexte bourgeois, celui-là, c'est Nora, Nora de la Maison de Poupée, que Thomas a situé dans un appartement bourgeois de Berlin aujourd'hui, en changeant un tout petit peu la fin, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Arte. On offre en résonance à la Maison de Poupée comme un épilogue avec le concert à la carte de Kreutz, où c'est la même comédienne, Anne Wüsmer, qui interprète cette femme seule, perdue dans les gestes quotidiens de son appartement, gestes quotidiens qui l'amènent jusqu'à jusqu'à sa propre fin. Et c'est une comédienne absolument formidable qui fera l'épreuve étonnante de jouer Maison de Poupée au théâtre municipal, puis un peu plus tard à la chapelle des Saint-Joseph, concert à la carte de Kreutz. Enfin, un petit spectacle de Thomas, qu'il a créé il y a déjà bien longtemps, mais qu'il aime énormément, qui est un peu une des mascottes de Thomas, qui est Disco Pigs, ce spectacle dont il a parlé tout à l'heure. Deux jeunes adolescents paumés se cognent à la réalité, accompagnés avec un batteur extrêmement énergique. Pour mieux faire comprendre et pour mieux peut-être donner des clés aux spectateurs pour appréhender l'univers de Thomas, les clés qu'on retrouve un peu sur les nouveaux signes du festival et qui sont derrière moi, on a voulu d'abord déployer un petit peu toute la scène berlinoise et la scène nord-européenne qui permet de mieux appréhender ce contexte-là dans lequel travaille Thomas, un autre langage théâtral qui n'est peut-être pas forcément très très connu en France. On a voulu aussi accompagner sa présence d'une exposition que l'on réalise avec la Maison Jean Villard pour présenter le travail de Thomas Ostermayer et plus largement son univers artistique. Donc on est très heureux de retrouver une collaboration forte avec la Maison Jean Villard et que la Maison Jean Villard traite aussi du festival présent, car la mémoire du théâtre se développe aussi et évidemment dans le présent. On réalise aussi avec la revue Alternative Théâtrale un numéro spécial sur le théâtre allemand qui, là aussi, permettra aux spectateurs de mieux comprendre les enjeux esthétiques et politiques de ce théâtre présent à Avignon. Donc, l'ensemble de la programmation, ensuite, j'ai essayé de faire résonner ces questionnements de Thomas, la pratique de Thomas. Et une des choses qui est très belle quand on va à la Schaubühne, c'est l'énorme complicité, l'énorme fraternité qui existe dans cet ensemble d'acteurs qui jouent ensemble tous les soirs et qui répètent tous les jours ensemble depuis plusieurs années. Cette complicité, on la retrouve peut-être plus rarement en France, où le système de production, et évidemment le système de l'intermittence, rend la pratique théâtrale très différente. On la retrouve dans une bande d'acteurs surdoués, et qui explique notre présence ici, c'est celle de Patrick Pinault, Eric Mosnino et toutes leurs bandes, dont une grande partie font aussi partie de la troupe de Joe Lavredan. Et cette bande-là exprime un désir démesuré de théâtre, et j'ai voulu répondre à ce désir démesuré en leur offrant le lieu démesuré du festival, qui est la Cour d'honneur. Donc j'ai proposé à Patrick Pinault d'emmener cette bande-là à Avignon, dans la Cour d'honneur. Quand il est rentré dans le lieu, il a eu un énorme frisson qui m'a convaincu que cette idée était la bonne, et il a répondu à cette offre en me proposant de monter Peer Gynt, livre qui l'accompagne depuis de très nombreuses années. Je me suis aperçu étonnamment que Peer Gynt n'avait jamais été monté dans la cour, alors que quand on lit ce poème mystérieux d'Ibsen, on a l'impression que si ce poème n'a pas été écrit pour le théâtre, il a été écrit pour la cour. Donc voilà, on est parti dans cette aventure magnifique. Je remercie vivement le Théâtre de l'Odéon, et Jo en particulier, qui a vraiment accueilli ce projet avec une énorme générosité, et donc on est partenaire avec l'Odéon pour monter ce projet qui sera créé, donc qui fera une très longue série dans la Cour d'honneur après le Voice Aid, et le festival ensuite organisera la tournée du spectacle, qui est encore en train de se monter, je vois quelques programmateurs dans la salle, et qui finira sa tournée ici à l'Odéon au mois d'avril. Alors une question qui a surgi, qui va traverser le festival, c'est un petit peu comment l'individu s'affronte à la société, comment on peut être un être social. Si la question de Peer Gynt qui traverse cette œuvre, c'est être soi-même, cette question-là, on la retrouve aussi dans Voicek, on la retrouve aussi dans Maison de Poupée, et on la retrouve aussi dans Homme pour Homme de Bertolt Brecht. Et c'est Bernard Sobel que j'ai invité à venir partager ce festival avec nous, qui en entendant les choix déjà faits de programmation avec Voicek et Peer Gynt m'a dit il faut absolument monter Homme pour Homme pour compléter cette réflexion de l'individu face au monde et de l'individu dans la société. Ce désir de Bernard Sobel, c'est aussi un désir d'acteur. Je crois qu'il rêvait depuis longtemps de monter ce texte-là avec Denis Lavant, avec qui il avait monté le Roi Ubu, le Père Ubu. Et donc Bernard Sobel va créer ce spectacle avec Denis Lavant et Alvaro dans un des grands halls de Châteaublanc qu'on va énormément utiliser cette année. À Châteaublanc, le lieu, on va l'utiliser pour ouvrir Châteaublanc avec Franck Karstorff, qui est pour moi le plus grand maître du théâtre européen, dans le sens où il invente depuis des années un véritable nouveau langage théâtral, le sien, nourri d'un jeu très brut des acteurs, nourri de littérature, de cinéma, d'images, et aussi pour ce spectacle qu'il va nous présenter à Avignon, où il s'est rapproché aussi d'un plasticien tout à fait étonnant, Jonathan Messe, un plasticien berlinois. Et donc c'est une nouvelle un peu esthétique de Castorf que l'on va découvrir à Avignon, assez différente des esthétiques développées dans les spectacles précédents avec, avec son scénographe Bert Neumann, qu'on a beaucoup vu à Paris. Et je suis très heureux, comme le disait Thomas tout à l'heure, de pouvoir en même temps présenter la Schaubühne et la Volksbühne à Avignon. Franck Castorf sera là au tout début du festival, du 7 au 8 et 9 juillet. Un autre artiste, toujours un peu pour essayer de travailler sur cette idée de résonance entre les œuvres, et pour montrer la richesse de ce théâtre allemand, on a voulu inviter, je crois que c'est pour la première fois en France, René Polesch, jeune metteur en scène et auteur de la Volksbühne, qui travaille dans le Prater, la deuxième salle de la Volksbühne, qui, comme Franck Castorf, a inventé un langage extrêmement singulier, un langage théâtral extrêmement singulier. Il n'y a plus de personnages, il n'y a plus d'histoire, il y a juste deux, trois acteurs qui échangent et discutent sur des questions politiques, des questions sociologiques, dans une esthétique extrêmement décalée qui rend le propos absolument étonnant. René Polesch, qui produit énormément de textes et énormément de spectacles, ne voulait pas venir avec un spectacle déjà créé. Il me dit « Je ne suis pas un musée, je dois venir avec un dernier spectacle que j'ai créé. » Et il va venir avec un spectacle qu'il créera juste avant Avignon, qui s'appelle « Pablo au prisonnier », en tout cas on l'a traduit comme ça. C'est un peu un questionnement sur le travail, et sur le travail aujourd'hui en Europe, qui parfois peut, les conditions de travail peuvent rappeler les conditions qui existent dans d'autres continents. Donc ce sera à découvrir au festival. Enfin, un autre grand maître du théâtre allemand va s'emparer de cette question du travail ou du monde de l'économie d'aujourd'hui, avec énormément d'humour et de musique, c'est Christoph Marthaler, qui vient aussi pour la première fois au festival, pas avec une grande pièce du répertoire, mais avec un spectacle très, j'ai énormément aimé, qui s'appelle Groundings, ou une variante de l'espoir, et qui est une réponse de Christoph Marthaler à son conseil d'administration au moment où celui-ci voulait le virer de la Schauspielhaus de Zurich. Il a répondu par une farce extrêmement grinçante et corrosive sur le monde des grandes entreprises, du conseil d'administration, au moment même où la Suissaire ne pouvait plus décoller, d'où le titre Groundings, et la Suissaire, symbole de la puissance helvète. Donc voilà, c'est une farce extrêmement violente sur la Suisse, mais je crois que, même si je ne comprenais pas tous les private jokes sur la Suisse et sur Zurich en particulier, tout d'un coup, en regardant cette pièce de plus loin, elle prenait une force absolument universelle. Et je crois que dans le contexte actuel, c'était je pense très fort le choix de Wandling au festival, qui sera joué seulement que trois fois au théâtre municipal, le 10 et le 11 juillet, avec une doublette le 11 juillet. Donc on se retrouve, à cause du système de la permanence du théâtre allemand, où les acteurs jouent tous les soirs, répètent tous les jours, avec un jour de pause, en tout cas à la Schaubühne, il y a un jour de pause pour les répétitions, mais il n'y en a pas pour les représentations. Il faut bien un moment que ces acteurs prennent des vacances, donc c'est toujours au mois de juillet, et c'est pour ça qu'on a dû concentrer la présence de ces grands ensembles allemands au tout début du festival, entre le 7 et le 13 juillet. Cet énorme programme allemand, qui rassemble, je crois, les plus grands ensembles, Volksbühne, Schaubühne, Schauspielhaus de Zurich, n'a été possible que grâce à un vrai soutien des institutions publiques allemandes, le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture fédérale et, je l'espère, du Sénat de Berlin. 1, 2, 3, je bois un petit peu d'eau. Mais il n'y a pas que des artistes du nord de l'Europe, il y a aussi des gens qui viennent du sud. Et dans ces questionnements, dans les artistes qui réfléchissent sur notre société, il y a un artiste que Thomas et moi on aime énormément, c'est Rodrigo Garcia. Donc une vraie fidélité avec Rodrigo, donc je voulais absolument qu'il participe à mon premier festival. Donc il va venir avec, donc après Pablo Prisonnier, cette fois-ci c'est l'histoire de Ronald, le clown de McDonald's, qui sera présenté pour la première fois en France. Ce spectacle vient d'avoir un énorme succès au festival de nouvelle dramaturgie que Thomas organise tous les ans à la Schaubühne le mois dernier. Et on a pris ce spectacle plutôt qu'une nouvelle production de Rodrigo, car c'est un spectacle créé pour l'extérieur et qu'il avait une énorme envie, frustrée de l'année dernière, de présenter ce spectacle dans un cloître médiéval, le cloître des Célestins. La question du travail, on va l'aborder aussi du point de vue de la littérature, et j'ai voilà, j'avais envie de déployer un peu l'écriture et présenter l'écriture de François Bon au festival. Donc on voulait la faire de deux façons. D'une part, par un spectacle. Et c'est avec son metteur en scène complice, Charles Tojman, avec qui ces textes sont mis sur la scène depuis des années. Ils ont conçu ensemble un spectacle intitulé « Déou », qui essaye de retracer un peu l'émotion et le choc provoqués chez... Comment les femmes qui ont été licenciées des usines Déou, qui ont fermé récemment en Lorraine, usine qui était installée sur les cendres un peu de la sidérurgie, voilà, comment ces licenciements, quelle émotion, comment ces femmes sont traversées par ce choc-là et comment la littérature peut s'emparer de ce thème-là pour en parler et pour l'évoquer. On fera aussi avec François Bon tout un cycle de lecture avec des auteurs de la littérature qui s'emparent de ces questions-là, de comment la littérature peut parler du monde d'aujourd'hui. Donc on va établir tout un cycle de lecture qui est encore en construction. Ce couple auteur de littérature et metteur en scène de théâtre, il y en a un autre qui je trouve absolument passionnant, c'est le couple que forment Olivier Cadio et Ludovic Lagarde. Et j'ai voulu aussi déployer le travail qu'ils réalisent ensemble et de faire un parcours tout au long du festival et de raconter un peu cette histoire-là. Donc ils vont reprendre Le Colonel des Zouaves, qui est un peu le spectacle qui a mis vraiment à jour le talent de ce couple artistique, avec un acteur magnifique, Laurent Poitronneau, qui maîtrise parfaitement les partitions d'Olivier Cadio. Et Ludovic Lagarde va présenter deux créations au festival, deux créations dont le trait d'union est Gertrude Stein, le personnage de Gertrude Stein. La première création, c'est le nouveau texte d'Olivier Cadio, Fairy Queen, donc qui sera créé au festival, où c'est l'histoire d'une femme qui vient faire une performance dans le salon déjanté de Gertrude Stein au début du siècle. Et la deuxième création, c'est un texte de Gertrude Stein elle-même, traduit par Olivier Cadio, texte inédit, je crois, en France. Oui, c'est pour un très jeune homme, une pièce extrêmement étonnante de Gertrude Stein qui s'interroge sur l'engagement des Français au temps de l'occupation allemande, ou nazie plutôt. Et ces trois pièces seront présentées en alternance donc au Tinel de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Je crois que le projet qu'on a mené avec Ludovic et Olivier est, je crois, assez exemplaire de ce qu'on a envie de faire au Festival d'Avignon. C'est d'abord déployer une œuvre, raconter une histoire, donc avec trois spectacles joués en alternance durant toute la durée du festival. C'est aussi un engagement très fort du festival pour accompagner des productions. Donc, avec l'équipe de Ludovic, on s'est beaucoup impliqué pour trouver des financements pour monter ces deux projets, pour faire deux créations au festival, qui pour une compagnie indépendante est extrêmement difficile. C'est aussi s'impliquer pour construire le décor, et c'est aussi s'associer avec un partenaire d'Avignon, le Centre National des Écritures du Spectacle, avec Daniel Girard, où on s'est mis ensemble avec la Chartreuse pour pouvoir offrir les meilleures conditions de travail possibles à cette aventure artistique. Donc la compagnie va pouvoir faire 3 mois de résidence de création. Ils sont venus en octobre, puis en janvier. Ils reviendront en mai et juin donc à Avignon, ou plutôt à Villeneuve-les-Avignon, pour pouvoir créer les deux spectacles. Et cela n'était possible que grâce à cette complicité et à ce partenariat avec la Chartreuse, que je suis extrêmement heureux de retrouver au sein du festival. Cette période que Gertrude Stein évoque dans son spectacle, on la retrouve dans une compagnie hollandaise, du nom de Hollandia, qui viendra pour la première fois en France, je crois, et la première fois évidemment à Avignon. C'est une compagnie menée depuis 20 ans par le metteur en scène Johan Simon et le musicien Paul Cook. Ils ont fait une adaptation absolument formidable des Damnés de Visconti, qui questionne cet engagement, l'engagement au moment de la montée du nazisme au sein de la grande famille industrielle allemande. Et l'adaptation théâtrale est absolument bouleversante. L'acteur principal de cette compagnie, Jérôme Willems, qui est un monstre de théâtre, présentera et écrira en français un autre spectacle qui s'appelle « Deux voix », inspiré du dernier roman de Pasolini, « Pétrole ». Et Jérôme Willems, c'est un monologue époustouflant où Jérôme Willems, tout seul, présente un dîner en ville avec un peu les symboles de la puissance du fonctionnement du pouvoir capitaliste, avec un chef d'entreprise, un intellectuel, un homme politique, un mafieux. Et l'acteur tout seul interprète l'ensemble des personnages. C'est à la fois, dans ses questionnements et dans la forme théâtrale, une œuvre étonnante et le spectacle sera créé en français à Avignon. Il a déjà été créé en allemand, en anglais et en néerlandais parce que Jérôme Willem c'est polyglotte. Cette fois-ci, il l'ouvrira en français. La question du pouvoir, un artiste du sud de l'Europe s'y intéresse beaucoup aussi, c'est Pippo Del Bono, un artiste et un poète. Je suis très heureux de retrouver Pippo pour Avignon. Pippo Del Bono fera une création pour le festival et une création pour la carrière Bourbon. Quand on s'est promené dans Avignon avec Pippo, pour savoir, on ne savait même pas ce qu'il allait créer, le frisson qu'il a traversé quand il est rentré tout seul dans la grande carrière de Bourbon, là aussi, comme pour Patrick Pineau tout à l'heure, c'était un choix évident. Et c'est l'énergie de la carrière l'habite au moment où il est en train de répéter ce spectacle avec l'ensemble de sa famille qui l'accompagne, cette famille si singulière d'acteurs avec qui Pippo se promène dans toute l'Europe depuis des années. Et il a ajouté à cette famille deux grandes figures italiennes, la chanteuse et musicienne Giovanna Marini et le grand acteur italien Umberto Orsini, vieil acteur de cinéma italien qui jouait d'ailleurs dans les années de Visconti. Pippo, en plus de ce spectacle, et ça ce n'est pas marqué dans l'avant-programme, représentera son spectacle Henri V, qu'il recrée à chaque fois avec un chœur d'amateurs du théâtre où il le présente. Donc là, de maintenant jusqu'à juillet, il va faire plusieurs ateliers avec des acteurs amateurs d'Avignon et de Cavaillon. Et le spectacle sera présenté en fin de festival, en principe au théâtre municipal. Ce projet est fait en collaboration avec la scène nationale de Cavaillon. La question du pouvoir et de la barbarie, parfois du pouvoir, un auteur iranien que je ne connaissais pas et que Thierry Bédard m'a fait découvrir, Reza Bahraini, on a voulu partager l'œuvre immense de cet auteur et poète iranien qui vit aujourd'hui à Toronto après avoir été emprisonné sous le Shah et sous les ayatollahs. Il est aujourd'hui professeur de littérature comparée à Toronto. C'est une œuvre, je crois, d'une extrême urgence et nécessité. C'est une œuvre nécessaire. Et Thierry Bédard m'a transmis un peu la passion qu'il avait pour cet auteur. Et on va la déployer, là aussi de deux façons. Thierry Bédard va recréer le spectacle En Enfer, donc retravailler sur le texte sur lequel il avait déjà travaillé l'année dernière, mais il n'avait eu l'impression de ne pas aller jusqu'au bout du travail qu'il pouvait faire sur cette écriture-là. Donc il repart à l'ouvrage, ce sera une nouvelle création pour Avignon. Et Reza Bahraini lui-même, entouré par Thierry Bédard et toute son équipe, nous donnera trois leçons de poétique où, grâce à la littérature, grâce à son amour de la fiction et du verbe, il tente de s'approcher, de révéler parfois l'horreur qui est au fond de l'être humain. C'est une œuvre magnifique. Le rapport entre l'Orient et l'Occident. Sidi Larbi Cherkaoui, le jeune danseur et chorégraphe flamand, on est aussi s'intéresse beaucoup à cette question-là, lui-même à la fois flamand et marocain et porteur de cette double culture. Et j'avais très envie que Sidi Larbi Cherkaoui fasse une création pour Avignon. Je connaissais son intérêt pour le rapport entre la danse contemporaine et la musique médiévale, entre les confrontations entre ces deux époques. Je crois que c'était donc un artiste idéal pour créer dans un des cloîtres du festival. Donc il fera une création pour le cloître des Carmes, qui s'appelle Tempus Fugit, une réflexion sur le temps, cette notion universelle, mais qui est vécue si différemment selon les cultures. Et il a rassemblé des danseurs, qui est un peu de l'univers du ballet et de la baie, mais qui viennent de tous les continents, pour réfléchir à cette question et la partager. Le spectacle sera créé pour Avignon et pour le cloître des Carmes. Le cloître des Carmes, un autre artiste flamand, il fera une création, c'est Jan Lowers. Donc que vous connaissez, plasticien, metteur en scène, chorégraphe, chef de troupe engagée, la Nid Company. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Jan Lowers. Et donc il fera une création pour le cloître des Carmes, intitulée La Chambre d'Isabelle. Donc, on préfère le titre français que le titre anglais, j'en ai discuté hier soir avec Jan Lowers, on corrigera ça sur le programme. Où c'est un peu une tentative de raconter le siècle passé à travers la mémoire d'une femme qui aurait traversé ce siècle. Cette femme, c'est Viviane de Minck, magnifique actrice de la Nid Company. Et c'est un spectacle qui sera avec énormément d'images, de travail vidéo et évidemment de chorégraphie et de théâtre. Ils ont fait une lecture avant-hier, une première version du texte, Jan Lowers en était extrêmement heureux, et ils viendront faire une nouvelle étape de travail au Théâtre de la Bastille, je crois, au mois d'avril. Un petit pause. C'est bientôt fini. Si vous faites des petites croix sur le programme, vous verrez qu'on a déjà bien avancé. Une artiste allemande que Thomas m'a fait découvrir, une jeune chorégraphe berlinoise qui s'appelle Constanza Macras, viendra pour la première fois à Avignon avec une nouvelle production, Back to the Present. Elle s'intéresse aussi à cette idée de la mémoire, c'est une idée qui traverse beaucoup le festival, où elle essaie de travailler sur les ruines de ses spectacles précédents, sur les ruines de sa jeunesse. Ce spectacle s'appelle Back to the Present. C'est une danse extrêmement chorégraphiée, extrêmement dansée. Elle travaille sur les cultures pop et disco des années 80 avec énormément d'énergie, des danseurs magnifiques, à la fois venant des États-Unis et de Berlin. Ce prochain projet est une recréation d'un spectacle dont elle avait fait une première version dans un vieux magasin berlinois l'année dernière. Et cette nouvelle création en salle l'a fait à la Chauve-Uneux à la fin du mois. Et je crois que le spectacle passera à Créteil au mois de mars, avant de venir au gymnase de Banel. La mémoire et la mémoire des années passées, la mémoire des 30 dernières années en France, Claire Lannes a envie de travailler aussi sur ce sujet-là avec un spectacle intitulé « Joyeux anniversaire » où Claire Lannes tente à travers une mémoire historique, une mémoire politique, mais aussi à travers la mémoire intime de l'ensemble de la troupe qui l'accompagne depuis une dizaine d'années. Elle va essayer de raconter cette profonde mémoire-là sous une fête d'anniversaire qui va se passer durant les 30 dernières années. Ça commencera en 1968 pour finir aujourd'hui. Et elle essaye d'inventer une nouvelle écriture scénique. Donc il n'y aura pas énormément de textes, mais plutôt avec de la danse, de la musique, de la langue des signes. Elle essaye d'inventer un langage pour témoigner de cette mémoire-là. Et ce n'est pas seulement ce spectacle qui m'intéressait avec Erlan, c'est aussi tout le projet qu'elle mène depuis des années avec sa troupe en Poitou-Charentes, d'un théâtre sous chapiteau, un plan où elle se promène en Poitou-Charentes de village en village pour faire un théâtre, on va dire, populaire, mais en même temps exigeant. Et c'était l'ensemble du projet que je voulais inviter. Donc on a choisi un petit village au nord du Vaucluse, un petit village de vignerons, Rastaud, au pied du Mont Ventoux. Elle va venir s'installer. En amont de son arrivée, elle va travailler un mois avec les amateurs du village pour faire un spectacle avec eux qui sera présenté à son arrivée, à l'arrivée du chapiteau début juillet. Et ensuite, elle présentera un grand nombre de représentations de joyeux anniversaires, mais aussi un spectacle tout public, tiré du dessin animé Prince et Princesse, et des petites formes qu'elle pourra présenter dans les villages alentours, mais aussi dans Avignon. Un autre chapiteau sera présent au festival, c'est celui de Cirque Ici, de John Le Guillaume, qui viendra présenter sa nouvelle et deuxième création, Secret. C'est une espèce de cirque laboratoire, un spectacle très, très étrange où Johan Le Guillaume s'affronte durant tout le spectacle à des objets mystérieux et étranges qu'il invente lui-même dans son laboratoire. C'est d'une poésie et d'une force, moi, qui m'émeut énormément. Et il sera présent durant toute la durée du festival. Dans un nouvel espace qu'on a tenté d'utiliser l'année dernière, qui est sur l'île Pio, le gymnase Vincent de Paul. Donc, Johan Le Guillaume installera son chapiteau. Et dans le gymnase lui-même, ce sera Frédéric Fisbach qui s'installera durant toute la durée du festival, avec une création pour le festival, une création de l'illusion comique de Corneille, une pièce qui est sur le pouvoir de la représentation théâtrale. Je crois que c'est une question très, très importante aujourd'hui. Donc il s'installera durant toute la durée du festival pour présenter ce spectacle. Également, il va venir avec une troupe d'acteurs pour présenter des ateliers sur les écritures contemporaines et présenter ses débuts d'ateliers au public pour qu'ils puissent assister au processus de création. C'est une demande que l'on a eue de beaucoup d'associations de spectateurs d'être plus impliqués, de se rapprocher un peu du processus de création, de voir des répétitions, de voir comment le théâtre se fabrique. Je crois que c'était l'esprit laboratoire de Frédéric Fisbach convenait tout à fait à ce projet. Donc ce sera un projet qu'on déploiera au gymnase Vincent de Paul à l'île Pio. Un autre classique revisité, c'est Andromaque de Racine, revisité cette fois-ci par Luc Perceval, metteur en scène flamand, extrêmement connu en Allemagne, je crois jamais venu en France. Il sera artiste résident à la Chauve-Uneux à partir de l'année prochaine. Et là, il nous proposera une version extrêmement minimaliste d'Andromaque, une version dans l'écriture, où l'écriture rappellerait plus John Fosse que Racine, et aussi dans la direction d'acteur, extrêmement minimaliste et immobile, où toute l'attention revient de cet immobilisme dans la pièce. C'est une version extrêmement étonnante qui sera présentée au cloître des Célestins dans la deuxième partie du festival. la Chao Bune, donc il sera artiste résident. Elle est aussi dirigée, donc pas seulement par Thomas Ostermayer, mais aussi par Sacha Valls, Sacha qu'on aime beaucoup au festival et qui va venir avec sa prochaine création. Elle commence tout juste les répétitions. La pièce s'appellera Impromptu, c'est les Impromptus de Schubert. On sait que la pièce devrait être plus minimaliste que les pièces précédentes. Sacha va peut-être danser dedans, mais ce n'est pas sûr. Et en tout cas, la création sera faite fin mai à la Chao Bune, puis le spectacle sera présenté au gymnase, non, dans la cour du lycée Saint-Joseph, en début du festival. Une autre chorégraphe vient tout juste de commencer les répétitions, donc on n'en sait pas énormément, mais c'est une chorégraphe que j'aime beaucoup, c'est Meg Stuart. Meg Stuart, qui d'origine américaine, qui travaille entre Bruxelles, Zurich et Berlin, vient là présenter sa prochaine création, un duo avec le danseur canadien Benoît Lachambre et un musicien américain Anne Rowe qui sera sur le plateau. Et la pièce s'appelle Forgeries, Love and Other Matter. La pièce sera présentée en deuxième partie du festival au gymnase Aubanel. Donc il y aura évidemment du théâtre, de la danse, du musique au festival. Mais je voulais aussi que le festival s'ouvre fortement aux autres champs artistiques, car je pense que toutes ces frontières-là sont en train de s'effacer peu à peu. Et je voulais aussi des artistes qui s'intéressent aux arts plastiques, à la performance, à la vidéo, et que ces nouvelles écritures scéniques soient fortement présentes au festival. On invite deux jeunes metteurs en scène plasticiennes norvégiennes, Camilla Martens et Toril Korsker. Excuse-moi Toril, je prononce toujours très très mal ton nom, mais le norvégien n'est pas ma langue maternelle. Deux artistes que Thomas m'a fait rencontrer. Nous présenterons une installation dans les rues d'Avignon, questionnant un petit peu la question de l'engagement politique avec l'art. Ce sont des artistes extrêmement étonnantes. Un autre, nous allons inviter un vidéaste aussi, berlinois, Julian Rosefeld, qui présentera dans l'église des Célestins une magnifique installation vidéo qui a eu un énorme succès à la Hamburger Bahnhof de Berlin, dont le titre est Asylum, qui est un travail vidéo sur l'idée de l'étranger ou de l'étrange condition des étrangers dans notre société, une œuvre magnifique. Enfin, Yann Favre viendra présenter pour la première fois en France L'Ange de la Mort, installation qu'il devait présenter l'année dernière, installation à la fois vidéo et performance, avec notamment Bill Forsyth filmé, qui danse et récite le texte de L'Ange de la Mort. Si Yann Favre et là l'année prochaine, c'est aussi pour moi pour préparer le festival 2005. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais que Frédéric Fiesbach, je reviens un petit peu en arrière, soit présent au festival cette année. C'est aussi pour qu'il puisse construire petit à petit sa relation avec le festival, sa relation avec le public du festival, dans la perspective du festival que l'on inventera ensemble en 2007. Un autre plasticien fera une installation, je ne sais pas encore où ni quand. C'est pour ça qu'il n'y a que son nom et le titre dans l'avant-programme. Il s'agit de Jean-Michel Bruyère, qui viendra présenter une installation au festival. Jean-Michel Bruyère, je lui ai aussi confié l'image du festival. Donc c'est lui qui a réalisé le nouveau signe, la nouvelle trace du festival, composée de ce grand A, ces trois clés, le festival d'Avignon et d'une petite croix mystérieuse, signe avec lequel on va décliner et jouer selon les documents que l'on utilisera. Et c'est lui aussi qui a réalisé l'avant-programme, où je crois qu'il a su traduire exactement ce qu'on lui a raconté, en tout cas dans la façon dont on imaginait notre projet, une constellation d'artistes qui résonnent les unes avec les autres. C'est la présentation que vous trouvez à l'intérieur de l'avant-programme et qui nous a proposé aussi cette image que l'on a choisie pour l'avant-programme de cette femme, à la fois marquée par la vie, mais qui dégage une rage de vivre, une vitalité étonnante avec une énorme beauté. Je crois que c'était un signe fort qui traduisait bien l'esprit de ce prochain festival d'Avignon. C'est le choix de cette image. Alors, sur cet avant-programme, donc les dates, vous pouvez découvrir les dates du festival du 3 au 27 juillet. Donc, même si l'essentiel des lieux vont ouvrir à partir du 7 juillet avec Karstorff à Château-Blanc et le 8 juillet avec Wojciech dans la cour, le festival commence un peu plus tôt. Là, je voulais reprendre la parole, je voulais que le festival ouvre avant l'arrivée des passionnés de théâtre de la France entière pour une proposition artistique qui soit adressée aussi aux Avignonnais. Il y avait un spectacle, une compagnie, une jeune compagnie lyonnaise, Complexe Capharnaüm, et je les ai invités à recréer le spectacle Square Télévision Locale de Rue, où sur un spectacle de parcours, ils projettent les images et les paroles des habitants des quartiers qu'ils visitent, habitants qu'ils ont rencontrés au préalable pendant plus d'un mois de résidence, qu'ils ont filmé, qu'ils ont remonté ces images, et ils font ainsi parler les murs d'Avignon, ils font parler les Avignonnais de leur ville, de leur vie, et peut-être du festival. Donc ce spectacle sera présenté du 3, 4 et 5 juillet. Et en même temps, Claire Lannes sera aussi là dès le 3 juillet, dans le petit village de Rasto, au pied du Mont Ventoux. Voilà les grandes lignes de la programmation. Maintenant, nous allons publier un véritable programme début mai. D'ici là, le travail que l'on va faire, c'est d'étoffer la présence de chaque artiste, d'essayer de déployer leur travail, de déployer leur univers, en essayant de voir à chaque fois avec eux ce qu'on peut faire en plus pour accompagner leur présence et mieux déployer leur présence sur le festival avec des films, d'autres spectacles, des installations, des lectures, etc. Donc ce programme va s'épaissir, se densifier et sera révélé début mai. Si vous avez regardé et fait des petites croix sur l'avant-programme, vous êtes peut-être aperçu que la salle Benoît XII n'avait pas été utilisée. On se la réserve pour une manifestation qu'on avait envie de donner de la vitalité, de la spontanéité au programme. Et on invitera chaque soir à Benoît XII, vers minuit, une compagnie différente pour une performance, une installation, une petite forme. Chaque soir, une compagnie différente sera présente pour agiter un petit peu les nuits d'Avignon. Juste à côté de Benoît XII, il y a le jardin du gymnase Saint-Joseph. On a eu envie, avec Thomas, de faire un lieu qui soit ouvert toute la journée, du matin au milieu de la nuit. Un lieu qui soit où on puisse boire, on puisse se restaurer, et dans lequel il y aurait différentes activités. Le matin, on y ferait tout un cycle de lecture contemporaine, d'auteurs défendus par Thomas et Lacha Obuneux, que l'on ferait traduire en français et lire en français par des comédiens présents au festival. Donc il y aurait une dizaine de lectures le matin vers 11h dans ce jardin. Ensuite, l'après-midi, nous allons organiser tout un cycle de débats pour qu'Avignon soit aussi un théâtre des idées. Un débat où on ne parlerait plus pas seulement des spectacles, on ne parlerait pas des spectacles directement, on continue la tradition des débats du Verger qui maintenant sont à Saint-Louis. Mais à Saint-Joseph, ce seront plutôt des débats politiques, des débats où on inviterait des penseurs, des philosophes, des chercheurs, des sociologues, pour partager leurs réflexions avec les artistes et avec le public. Donc on est en train d'établir tout un cycle de conférences et de débats qui seront un vrai lieu de réflexion et d'échange au gymnase, dans le jardin du gymnase Saint-Joseph. Ensuite, le soir, dans le gymnase lui-même, on présentera des spectacles témoignant de la jeune esthétique et énergique berlinoise. Donc c'est là où sera présenté Discopix, c'est là où sera présenté le travail de René Polèche, et peut-être encore d'autres spectacles. Voilà un petit peu ce qui sera révélé au mois de mai, au moment de la publication du programme. On est aussi en train, dans ce programme du mois de mai, on témoignera aussi de tous les projets que l'on est en train de réaliser avec les partenaires du festival. On a essayé avec chacun de réinventer les partenariats que l'on avait, en essayant de se croiser avec plus de synergie peut-être, par rapport entre le programme du festival et les envies de nos partenaires. On sait déjà qu'on est en train de réinventer un nouveau vif du sujet avec la SACD. On est en train d'inventer un nouveau cycle d'orgue avec l'association Musique Sacrée en Avignon, qui est une spécificité bien singulière du festival et qu'on a voulu préserver. On continue évidemment de travailler avec l'association Théorème, association fondée par projet initié par Bernard Fèvre d'Arcier, pour s'ouvrir et accompagner les artistes d'Europe centrale et orientale. Cette année, il n'y a pas d'artiste est-européen dans le programme, ce n'est pas un choix politique, c'est juste le hasard des choix et comment une programmation se bâtit. Je continuerai d'inviter des artistes est-européens les années suivantes, et notamment en 2006, dans le programme que l'on réalisera avec Joseph Nadj. Mais cette année, on a voulu déployer le travail de l'association Théorème sous une autre forme, plutôt sous un endroit d'échange de savoir-faire, en organisant des masterclass avec des artistes est-européens, des artistes français, et que ce soit à la Chartreuse et peut-être ailleurs, d'arriver à faire d'Avignon aussi un lieu d'échange de savoir-faire. On travaille aussi avec l'ADAMI, qui soutient beaucoup les créations du festival, encore une fois cette année, de réinventer un peu le projet Parole d'acteur. Et on travaille aussi avec pas mal de partenaires à Avignon pour que leur activité, je pense au cinéma Utopia, à la collection Lambert, que leur programmation résonne un peu aussi avec les nôtres, avec les questionnements qui traverseront le festival. Enfin, on continuera la tradition des débats et des rencontres avec les CMEA, avec Le Monde, avec l'Université d'Avignon. Voilà, on continue de travailler et le programme complet sera révélé au mois de mai. Voilà un petit peu le projet auquel nous vous invitons pour le mois de juillet. Voilà.
Je voulais encore rajouter un mot, c'est que ce programme est possible grâce au soutien des mécènes et partenaires du festival qui ont renouvelé aussi leur confiance dans le nouveau projet. Donc je voulais les citer. C'est Dexia, Crédit Local de France, qui est notre principal mécène. L'ADAMI, qui soutient la création. Arte, la FNAC, la SACD, le CRIP coopératif. La Farge, qui nous prête la carrière de Boulbon. Renault, Vaqueras et Interrhône, qui nous permettent de boire pendant tout le festival. Et merci beaucoup à tous ces partenaires. Je voulais aussi vous dire que ce programme est possible grâce aux artistes et aux techniciens qui travaillent au festival, qui sont tous des intermittents du spectacle. Et je voulais vous dire sur notre point de vue sur le protocole, sur le régime spécifique d'assurance chômage des professionnels du spectacle qui a été signé le 26 juin dernier et qui est en application depuis le début du mois de janvier. On pense qu'il est totalement inadapté à nos pratiques. On pense qu'il précarise les artistes et les techniciens du spectacle et qu'il fragilise par là même l'économie de la création. L'annulation du festival de l'été dernier a donné un grand retentissement à leurs revendications et depuis, l'ensemble des artistes et techniciens ont rejoué, l'ensemble des théâtres ont pu rouvrir, ce qui n'a pas empêché en même temps les artistes et les techniciens de travailler à des analyses et à l'élaboration de propositions pertinentes. Nous croyons qu'avec des principes démocratiques, il est possible de négocier avec les professionnels concernés un protocole adapté et responsable. Nous appelons le gouvernement à ouvrir les négociations. Nous avons souhaité leur laisser la parole pour qu'ils nous expliquent la situation actuelle. Bonjour, je suis Caroline, ingénieure chimiste, metteur en je sais pas quoi, comédienne, RMiste. Nous, intermittents et précaires en lutte depuis 8 mois, exigeons du gouvernement l'abrogation du protocole réformant les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage et de son agrément. Nos propositions doivent être entendues. Nous voulons l'ouverture de véritables négociations avec l'ensemble des concernés sur la base de notre nouveau modèle d'indemnisation. Nous avons élaboré ce modèle à partir des réalités et des pratiques concrètes de nos champs d'existence et de nos champs d'activité, qui ne sont pas obligatoirement superposables. Loin d'une logique comptable supposée incontournable et qui sert de prétexte à la destruction systématique de nos droits sociaux. Chacun doit désormais savoir que les évictions massives du droit à l'indemnisation prévues pour 2004 ne sont que le prélude à de nouvelles attaques. La convention UNEDIC doit être à nouveau négociée cette année pour entrer en vigueur au 1er janvier 2005. Le programme de refondation sociale élaboré par le MEDEF et la CFDT, mis en œuvre par les partenaires sociaux et le gouvernement, franchira alors, si nous ne nous y opposons pas, une nouvelle étape. Les premières conséquences désastreuses de l'application du protocole UNEDIC depuis le 31 décembre 2003 n'échappent à personne, malgré la reculade du ministre de la Communication et des partenaires sociaux, relative aux congés maladie et maternité. Chaque mesure de ce protocole est structurellement destructrice, productrice d'aléatoires et organise la concurrence de chacun contre tous. Ce protocole n'a d'autre but que la disparition pure et simple du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. Et sa mise en application sert de laboratoire dans le processus de destruction planifiée des droits sociaux collectifs en France et en Europe. C'est pour ces raisons que nous refusons l'amputation au 1er janvier 2004 des droits ACEDIC et ASS dans le régime général, la réforme régressive du RMI, l'instauration du RMA, la mobilisation pour l'emploi, entre guillemets, chère au gouvernement, impose la baisse des salaires, l'attribution de fonds publics aux employeurs, le développement inacceptable du contrôle social et une politique d'emploi forcé dont nous ne voulons à aucun prix. Nous revendiquons la valorisation et l'usage d'un temps déconnecté des asservissements de l'emploi, de pouvoir jouir, que l'on soit salarié, au chômage, travailleur indépendant ou en formation, d'un temps non assujetti, de la possibilité de développer des projets non rentables, de la possibilité de développer un travail de recherche, de pouvoir jouir d'un temps de coopération sans devoir rendre compte d'une quelconque productivité. Avec l'application de la réforme UNEDIC, il sera à la fois plus difficile de gérer son temps libre et de rester dans le régime. Que deviendra notre liberté de choisir les projets auxquels nous nous associons ? Que deviendra notre capacité de refuser des emplois ? Qui financera l'énorme masse de travail qui était financée de fait et ne sera plus financée par les ACEDIC ? Nous refusons la politique de l'excellence. Une politique culturelle fondée sur une logique discrétionnaire d'individualisation des subventions et des financements, gérée par les institutions étatiques, ne fera que maintenir, à côté de l'industrie du spectacle rentable, une culture sous contrôle. À l'exception culturelle, gardienne de parts de marché, nous préférons une culture sans exception. Et une culture sans exception ne peut faire l'économie de droits sociaux collectifs. Nous refusons l'idée d'une loi d'orientation pour le spectacle vivant, issue d'une soi-disant consultation nationale, menée sous d'ignobles menaces et pressions par la mission Latarget. Ces consultations visent explicitement à isoler les secteurs d'activité du champ culturel. Nous refusons toute application des dispositifs de la GCS, accord sur, général sur le commerce des services, qui vise à assujettir le bien commun et l'intime aux lois de la concurrence et du marché. Depuis le 17 décembre 2003, un comité de suivi sur la question des annexes 8 et 10 a été mis en place à l'Assemblée nationale. Il est composé d'une majorité d'organisations, dont la Coordination nationale des intermittents, la CGT, la SRF, la Fédération des arts de la rue, etc., et de députés UMP, UDF, PS, PC et Verts. Une plateforme commune de contre-proposition a été remise aux parlementaires et fera l'objet d'une conférence de presse le 25 février prochain. De très nombreux députés, sénateurs, maires de tous partis nous ont affirmé dans le cadre de ces réunions qu'ils partageaient en tout point nos conclusions sur l'analyse de la réforme des annexes 8 et 10. Ils sont fermement décidés à se prononcer publiquement afin que des mesures concrètes soient prises très rapidement avant d'aborder des négociations avec tous les concernés. En vue des prochains scrutins électoraux, cantonaux, régionaux et européens, nous avons décidé en coordination nationale, les 3, 4 et 5 février à Clermont-Ferrand, de demander à tous les candidats de prendre position sur l'ensemble des points que nous venons d'évoquer. Notre lutte se poursuit. Le 1er mars, nous appelons à une journée de mobilisation nationale qui se ponctuera par la deuxième édition du chaos social. Le 1er mai sera celui des luttes sociales européennes simultanément à Barcelone, Milan et Lille. Nous serons présents lors de selon diverses modalités, le 16 février au Bataclan, le 21 février pour la cérémonie des Césars, le 28 février pour la cérémonie des Victoires de la musique. Bien évidemment, rendez-vous est donné pour le Festival de Cannes. Nous ne pensons plus possible de laisser recommencer normalement un printemps et un été de festival sans la satisfaction de nos revendications. Nous ne pensons plus possible de laisser recommencer normalement un été et un printemps de festival sans la mise en œuvre d'alternatives solidaires à la situation qui nous est faite, rassemblant l'ensemble des forces et des moyens du monde culturel. La menace porte sur nos vies mêmes, nos capacités à faire et défaire des mondes, à résister, à déjouer, à penser. Elle nous concerne tous de là où nous nous tenons, au travail, à la maison, à l'école. Cette menace est concrète. Nous avons peur que ce qu'il reste de commun à tous soit justement la peur. Une peur qui isole, Ce que nous avons partagé pendant ces mois de lutte ne se mesure pas en défaite ou en victoire. Les actions sont à la mesure de notre colère et ne connaîtront pas de pause. Nous invitons tous et toutes à faire de même partout où il n'est plus possible d'accepter l'inacceptable. Ce que nous le défendons pour tous. Et je vous invite à acheter nos badges et nos rubans pendant le pot que nous allons tous prendre maintenant. Merci.